Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode.
Et donc vraiment, tu vois, cette sensation d'avoir vraiment, vraiment un potentiel assez énorme en moi, un truc dans lequel j'étais pas vraiment allé puiser jusque-là, du moins pas dans les qualités qui étaient vraiment importantes pour moi, notamment tout le domaine du service aux autres, de l'écoute, de l'empathie, de l'humain. Et donc cette dissonance-là, ben, elle faisait que c'était de plus en plus difficile de me motiver le matin et de me dire « Ok, il y a du sens dans ce que je fais. » Tu vois, je faisais des campagnes publicitaires autour du monde pour des annonceurs qui faisaient déjà des centaines de millions ou des milliards de dollars de chiffre d'affaires. Tu vois, ça me nourrissait pas. Et donc, du coup, en fait, la décision, elle a été moins difficile que ce qu'imaginent la plupart des gens. Parce qu'ils voient ça comme une espèce de truc monstrueux, d'abandon. Pour moi, c'était pas un abandon, en fait. Parce que je l'ai fait de manière très consciente. Et je me suis dit, ok, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de risques émotionnellement à rester dans cette situation que de faire le choix qui paraît risqué, qui est de tout plaquer et de recommencer quelque chose à zéro. Tu vois? Donc ce concept de risque, pour moi, je l'ai un peu renversé et je me suis dit, le vrai, vrai risque, c'est pas de pas avoir beaucoup de revenus pendant que je commence, c'est pas de plonger dans l'inconnu, c'est de passer à côté de ma vie. C'est ça le vrai, vrai risque.
J'adore. Tu vois. J'adore. Et c'est trop cool que tu illustres ça parce que, du coup, on touche déjà à un des trucs que j'avais envie qu'on déconstruise aujourd'hui ensemble. On est tous les deux fascinés par tout ce qu'on entend derrière le mot mindset ou état d'esprit et ce que moi j'entends derrière pour rendre ça peut-être un peu avec d'autres mots plus concrets pour les gens qui nous écoutent qui aiment pas forcément ce terme mindset. C'est en gros les chemins psychologiques de ce qui se passe dans notre tête face à différentes situations de nos vies et différentes situations de nos activités. Et là, il y en a 2 qui, à mon sens, que tu illustres avec ce que tu viens de raconter. Le premier, c'est, et on pourra voir lequel on suit, mais le premier, c'est le reframing. Tu as changé ta manière de regarder quelque chose en changeant presque ta définition du risque. Tu te dis, ok, j'ai envie d'aller faire ça, j'ai envie de me lancer dans une nouvelle aventure, changer de mode de vie, changer de carrière. Et j'ai envie, et pour me soutenir dans le fait d'y aller ça, je vais inverser la manière dont je vois le risque pour soutenir les actions que j'ai envie de faire et pas être pétrifié par la peur de faire ça. Et il y en a un autre que j'entends aussi et qui illustre ce truc de notre cerveau, il a à la fois la capacité d'aller vers les choses qu'il désire, mais il est aussi grandement drivé par le fait d'éviter l'inconfort. Et que du coup, dans ta perception à ce moment-là, comme tu avais changé ta vision de ce que c'est le risque, ben c'était plus inconfortable de rester et de ne rien changer que de t'aventurer dans un truc où effectivement bah tu connaissais pas forcément grand chose et t'étais nouveau et tu changeais de plein de trucs dans ta vie, mais c'était plus inconfortable de rester, et donc ça soutient le fait de passer à l'action, quoi. Du coup, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on touche déjà des sujets entre guillemets mindset qu'on peut rendre plus concrets d'ailleurs.
C'est extrêmement juste. Que tu serais pas un peu coach sur les bords par hasard?
Moi? Non.
Non, jamais tu penses. Mais ouais, tu vois, ça me parle beaucoup ce que tu dis sur ce reframing, sur ce changer de la vision un peu qu'on a d'une certaine chose ou d'une certaine croyance. Parce qu'en fait, je pense que c'était un premier pas indispensable de moi-même m'autoriser à voir les choses de manière complètement différente. Pour pouvoir faire de ça ensuite le cœur de mon activité. Tu vois, c'est-à-dire que si j'étais resté avec les mêmes schémas de pensée que j'avais eu depuis toujours, je pense que j'aurais eu beaucoup plus de difficultés à, par exemple, faire une espèce de transition un peu douce, tu vois, de rester à New York, de rester peut-être un peu dans ce monde-là et à commencer à faire du coaching par-ci, par-là. Je pense pas que j'aurais eu à ma disposition autant d'outils, tu vois, que par l'expérience vécue. Or là, ben, le fait d'avoir été en plein milieu de ce tourbillon-là et de ce choix et de ce changement, bah je pense que ça me rend beaucoup plus enclin à pouvoir aider des gens qui sont en train de vivre la même chose à leur échelle, tu vois. Ouais. Et ça, pour moi, c'est hyper important en termes de vraie empathie et de comprendre l'expérience des gens avec qui je travaille, tu vois. Ça,
ouais,
c'est
aussi
un truc qui est fondamental pour moi dans cette quête de sens.
Parce que tu l'as vécu toi-même, donc tu sais dans ton corps et dans tes émotions qu'est-ce que ça fait de traverser des moments comme ça. Et je suis curieux, du coup, je me demande si à l'époque, quand t'étais toi-même dans cette situation, est-ce que cette réflexion de « j'ai envie de changer mon regard sur ici c'était sur la situation et sur ce que tu voyais comme étant risqué pour toi et pour ta vie », est-ce que c'était une démarche consciente, c'est-à-dire que t'avais des outils que t'as appliqués pour y réfléchir, ou est-ce qu'au contraire c'était assez fluide, parce qu'aujourd'hui je sais que t'as les outils et qu'on les utilise pour les personnes qu'on accompagne, toi et moi. Mais je me demande si à l'époque, tu avais des outils concrets et que tu t'es dit « Ok, consciemment, je vais travailler sur ça parce que c'est à mon service ou pas ?»
C'est une bonne question, ça. Parce qu'en fait, tout dépend de ce que tu entends par le mot « outil ». C'est-à-dire que maintenant, oui, effectivement, on a des outils, toi et moi, tu vois, liés à une formation de coaching, la caisse à outils, disons, qu'on peut utiliser auprès de nos clients, tu vois. Mais je dirais que moi, mon plus grand outil, ça a été l'intuition. Vraiment. C'est-à-dire que c'est, tu vois, j'ai grandi en étant quelqu'un de très analytique, d'assez rationnel, de très cérébral. Et du coup, j'ai eu du mal pendant longtemps à me connecter vraiment à cette intuition. Or, je me rends compte là, et ça, enfin, ce changement de trajectoire professionnelle en a été un exemple parfait, que plus j'arrive à me connecter à mon intuition et à lui faire confiance, plus du coup, je prends des décisions qui sont alignées avec qui je suis profondément et pas avec tout le bruit alentour et ce que la société me dit que je devrais être. Tu vois, ça vaut dans tous les domaines de ma vie. Et donc, ben, in fine, c'était un petit peu un outil. Tu vois, c'est un outil que j'apprenais à développer, que j'ai appris de plus en plus à développer à travers plein de choses, beaucoup de lectures, des ateliers, du développement personnel, des conversations hyper, hyper intéressantes avec des gens, tu vois, peut-être plus avancé que moi sur ce chemin-là, etc. Et donc, mes outils, en fait, c'était ça. C'était juste cette intuition-là. Après, évidemment, tout ce que j'avais acquis dans ma trajectoire en entreprise, en termes de stratégie, de vente, de marketing, de communication, etc., ça, c'est des outils beaucoup plus, disons, hard skills, tu vois, que j'ai pu emmener avec moi dans ma besace quand j'ai décidé d'être coach, en me disant, bah, je pars pas de zéro, ouais. J'ai déjà plein d'outils qui vont permettre d'accompagner des gens après à faire grandir des business.
Mais trop intéressant.
C'était vraiment beaucoup plus interne qu'externe, tu vois.
Ouais. Et ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure de quand t'es dans ce moment, t'as une sorte de dissonance cognitive, t'as utilisé ce mot-là, où il y a genre ton esprit et ton cerveau qui est séparé un peu en deux entre tu sais qu'il faut prendre cette voie-là et en même temps il y a plein de choses qui te retiennent. Et ça illustre un truc qui est hyper intéressant, je trouve, dans cette conversation mindset où on rentre dans des choses très concrètes sur comment fonctionne notre cerveau. C'est que dans ce moment-là, il y a du coup une partie de ton cerveau qui est le cerveau limbique, qui est la partie qui gère la mémoire, les émotions et la prise de décision, qui savait en fait. Comme tu dis, c'est ce qu'on appelle, ce que tu appelles là l'intuition, ça peut être en lien avec ça, qu'il y a une part de toi qui sait qu'en fait, il n'y a pas d'autre chemin que celui-là pour toi et qu'il faut y aller. Et en même temps, la partie rationnelle et plus consciente de notre cerveau, qu'on appelle le néocortex, qui est ce qui nous différencie des animaux et qui nous donne la capacité à réfléchir, à rationaliser, à créer des argumentaires et à poser toutes ces conditions-là, ben, des fois, ça peut ne pas être en accord avec la décision qu'on sait qu'on devrait prendre parce qu'on n'a pas encore vu ou trouvé les arguments qui viennent créer du coup plus je sais pas ce que c'est l'inverse de dissonance mais association on pourrait dire et qui font que je suis aligné avec la décision parce que je sais que c'est la bonne entre guillemets et je pense que c'est ça que le reframing dont on parlait tout à l'heure ça peut aider à faire, c'est aider à recontextualiser ce qu'on sait déjà du monde et les arguments qu'on a déjà, et tu le disais avec tes compétences, hard skills, du coup, tu recontextualises ça en disant, mais en fait, même si j'avance là-dessus, j'ai les compétences, donc évidemment que je vais y arriver mieux, et c'est pas vraiment un redépart. Et du coup, tu recrées plus d'associations entre, le rationnel de ton cerveau et la partie intuitive, quoi.